Violette Ferreira.
Bonjour, Télébilingue bénéficie d'un sursis. La chaîne biennoise pourra diffuser jusqu'au 1er janvier 2026 au moins. C'est ce que rapporte le journal Le Temps, une décision prise par l'Ofcom le mois dernier. Cela alors que la chaîne est en procédure de recours contre la décision d'attribuer la zone de Bienne à la télévision neuchâteloise, Canal Alpha. Vos précisions sur ce dossier, Claire Vigée.
Les deux concurrents se sont mis d'accord sur une période transitoire de 12 mois, une année de sursis donc pour Télébilingue qui aurait dû s'éteindre à fin 2024 compte tenu de la décision de l'Ofcom, vous l'avez dit. L'Office fédéral de la communication a choisi d'octroyer une concession de transition à la chaîne biennoise du groupe Gassman. Cela a été décidé à la fin octobre, une décision qui prendra effet au 1er janvier 2025 et jusqu'à décision du tribunal administratif fédéral, indique un porte-parole de l'Office au journal Le Temps.
Nous sommes le dimanche 1er décembre, le moment est venu d'ouvrir la première case de votre calendrier de l'Avent, si ça n'est pas déjà fait. Dans plusieurs communes de la région, l'heure est aux fenêtres de l'Avent. L'événement annuel fête ses 10 ans à Évillard. Anne Bernasconi est organisatrice, elle participe depuis le début à cette fête et nous dévoile comment elle compte accueillir ses invités.
Une fenêtre illuminée, un feu dans le jardin ou dans la véranda, quelque chose de chaud à boire pour les enfants, pour les adultes, quelque chose à grignoter, parfois je fais une tresse ou bien un cake, et certainement aussi un peu de musique parce qu'on est une famille de musiciens et de musiciennes, donc on va agrémenter de notes de musique.
On a pu voir un peu déjà chez vous comme une peinture avec un soleil, peut-être aussi des branchages. Comment vous allez la décorer cette fenêtre?
Alors ça, c'est à dévoiler que le soir. Évidemment, moi j'aime beaucoup peindre. Et là, j'avais une amie en visite. On a passé l'après-midi à chercher des idées. Et moi j'aime les jardins, j'aime les fleurs. Donc on a dessiné une sorte d'immense fleur, fantaisie. Chacun y donne du sien dans ses fenêtres de l'avant et c'est ce qui est beau. C'est la créativité qui vient des gens d'une façon finalement gratuite. Et je me réjouis. Ce qui est génial, c'est qu'on ne sait jamais qui va arriver. Et c'est ça la particularité de cette fête, en fait, du soir où on est à l'honneur. C'est qu'on prépare, mais on ne sait pas qui va venir. C'est quelque chose de merveilleux et qui est en dehors de notre société, en fait. On doit tout compter, on doit tout planifier. Mais là, on donne quelque chose, on offre quelque chose et vient qui veut. Alors parfois, il y a 10 personnes, parfois il y en a 40 et ça se succède.
La famille Bernasconi-Minger ouvrira sa fenêtre mercredi 4 décembre à Évillard pour un apéritif des 18h. Ailleurs dans la région, d'autres fenêtres de l'Avent sont organisées. C'est le cas par exemple à Saint-Imier ou encore Tavannes. Une 27e édition synonyme de réussite. Le marché paysan de Moutier s'est tenu hier dans l'ancien stand prévotois. À l'heure de dresser le bilan, Stéphane Girardin, caissier de l'événement, estime que les visiteurs étaient au rendez-vous.
Je pense qu'elle s'est très bien passée pour tout le monde. Nous, les organisateurs, on a été très contents. D'après les retours des exposants, c'était aussi très satisfaisant. En termes de fréquentation, on peut dire que c'était supérieur à l'année passée.
Une fréquentation supérieure à l'année passée. Qu'est-ce qui a fait que les gens sont plus venus cette année-là?
Ça peut être beaucoup de facteurs. Ça peut déjà être la météo. La météo a été très favorable hier. Peut-être qu'il y avait une envie des gens un petit peu de revoir ce marché paysan. Et on sait maintenant que c'est devenu une tradition à Moutier. D'après les retours tout au long de l'année, c'est quelque chose d'attendu et d'apprécié. Et puis c'est aussi pour ça que nous, on est très heureux de le refaire chaque année, de réorganiser ça.
Est-ce qu'une édition 2025, une 28e édition est déjà en ligne de mire pour le comité?
Alors, on n'a pas eu de comité encore, mais au vu des sourires hier soir à la fin, je pense qu'on peut dire que oui.
Et puis, si vous deviez décrire cette édition, cette 27e édition, en un mot, ce serait lequel?
Bonheur. Ben voilà, en voyant tous ces sourires, toute cette bonne humeur, c'est grâce à eux que d'année en année, on fait perdurer cette tradition du marché paysan à Moutier.
L'horlogerie est au cœur d'un nouvel ouvrage à présent. Hier, le livre intitulé « Parcours horloger de la famille Gagnebin au siècle des Lumières » paru aux éditions Alphil, était présenté à la Couronne à Sonsbeau. L'auteur Rossella Baldi est historienne de l'art rattachée à l'université de Neuchâtel. Elle nous dévoile le contenu de ce livre qui s'intéresse à des personnages moins connus de cette famille d'horlogers.
Le livre vous présente quelques profils de plusieurs membres de la famille Gagnebin qui, au XVIIIe siècle, ont entretenu un lien avec le monde de l'horlogerie. Et c'est une approche un peu différente qu'on a adoptée avec la famille Gagnebin et David Gagnebin qui est derrière ce projet éditorial pour parler d'horlogerie. Parce que d'habitude, je pense que vous le savez, on parle toujours des grands héros de l'horlogerie, des grands génies de l'horlogerie qu'on considère comme des figures un peu isolées. Et là, en fait, on avait vraiment envie de remettre en valeur une histoire familiale, mais donc aussi une histoire collective de l'horlogerie pour montrer que finalement, cette histoire, notamment au XVIIIe siècle, est extrêmement riche, extrêmement dynamique. Et il y a différentes manières de participer à l'essor de cette grande entreprise horlogère jurassienne qu'on connaît aujourd'hui.
Alors, vous parlez du territoire jurassien, mais en quoi ce livre, il peut intéresser plus largement l'arc jurassien, c'est-à-dire d'autres cantons que le Jura?
Il peut intéresser n'importe quel territoire qui a un lien avec l'horlogerie du XVIIIe siècle au sens large, parce que ce livre montre bien que derrière ces profils individuels de membres de la famille Gagnebin, il y a une industrie horlogère en plein essor qui est extrêmement mobile et flexible. On a retrouvé la trace de montres signées Gagnebin, mais qui étaient conçues certainement pour un marché probablement du nord de l'Europe. Il y a aussi l'exemple de Daniel Gagnebin, qui était un grand businessman, on l'appellerait comme ça aujourd'hui, qui avait des grandes perspectives, des grandes ambitions pour développer des liens entre le Jura horloger et le reste du monde, notamment la Chine. Donc vous voyez, en fait, c'est un livre qui nous parle vraiment de l'horlogerie à spectre large, donc bien au-delà des confins jurassiens.
Rossella Baldi nous dévoilait le contenu de son nouvel ouvrage intitulé « Parcours horloger de la famille Gagnebin au siècle des Lumières ». Des médecins de la région testent leur capacité dans un cockpit. Jeudi, une trentaine de membres du personnel soignant du réseau de l'Arc avaient rendez-vous à Delémont dans les locaux de Airfly Sim, un simulateur de vol. C'est la société jurassienne Formasim qui a mis sur pied des ateliers de simulation médicale. Ainsi, les praticiens du Jura bernois ont essayé de faire atterrir un avion. L'aéronautique est en avance sur le domaine médical pour la gestion du facteur humain. Explication de Luc Lavanchi, médecin référent chez Formasim. Il est aussi engagé à la Réga.
Tout ce qui a été développé dans l'aéronautique pour assurer la sécurité des pilotes et puis des voyageurs, c'est des techniques qui ont été transférées aussi au domaine médical. À savoir, la théorie de base, c'est le CRM, le Crew Research Management. C'est une théorie où on va mettre en avant les facteurs humains de l'équipage pour pallier à des problèmes techniques. Si je continue dans l'histoire de l'aviation, la plupart des catastrophes qui ont lieu encore de nos jours dans l'aéronautique sont dues à des problèmes humains et pas du tout à des problèmes d'équipement, de communication. Donc c'est vraiment le facteur le plus vulnérable pour un équipage d'avion, c'est le facteur humain. Et puis, dans le domaine des soins aigus, donc je parle de l'anesthésie, le bloc opératoire, ça fait déjà plus de 10-15 ans qu'on a repris ces outils d'analyse du risque et puis ces outils de gestion des ressources humaines de l'aéronautique et qu'on essaie de les appliquer à la prise en charge hospitalière.
Retrouvez ce soir à 18h un reportage dans la fausse cabine de pilotage. Toujours en Suisse, le mouvement scout s'est vu décerner hier le prix de la fondation Bredenberger. Il rend hommage chaque année à une institution qui promeut la culture humanitaire. La fondation loue cette année les mérites exceptionnels des scouts en matière de tolérance. Le prix est accompagné de 200 000 francs. Les pourboires obligatoires divisent les Suisses, c'est ce qui ressort d'un sondage de 20 minutes État Média publié aujourd'hui. Plus de deux tiers des interrogés ne veulent pas les inclure dans le prix de leur consommation. 48% se sont prononcés en faveur d'une suppression qui serait compensée par une augmentation du salaire de base des employés dans la restauration. Dans le reste de l'actualité, à l'international, l'armée syrienne renforce sa présence autour de la ville d'Hama, située dans le centre. C'est ce qu'affirme aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cette décision a été prise après une offensive lancée par des groupes rebelles dans le nord et le centre du pays. Ce matin, on apprenait aussi que la ville d'Alep, la deuxième ville de Syrie, n'est plus sous le contrôle du régime de Bachar al-Assad pour la première fois depuis le début de la guerre civile en 2011. Depuis mercredi, l'offensive a fait plus de 330 morts selon l'OSDH.
Sport.
Midi et bientôt 25 minutes, l'heure de passer au sport. Malgré des prestations honorables, le HCBN ne parvient plus à enchaîner les succès. Les hockeyeurs ceylandais se sont encore inclinés 3-1 hier soir à Davos en National League. C'est leur sixième défaite sur les 7 derniers matchs. Face au nouveau leader du championnat, Bien a pourtant rivalisé mais n'a pas été bien payé, notamment durant le deuxième tiers où les Biennois ont touché 2 fois les poteaux. Le HC Bien a finalement été plombé par des erreurs de sa jeune défense qui ont permis à Philippe Sadina d'inscrire un triplé. Mais l'entraîneur assistant Beat Forster refuse d'accabler ses jeunes joueurs.
Wir können jetzt einfach machen und sagen, oh, Blessing, oh, geil. Ja, sie haben jetzt Fehler gemacht, die zu Toren führten, aber...
On pourrait se lamenter et dire, oh, Blessing, oh, Christ. Oui, ils ont fait des erreurs qui ont amené les buts, mais d'autres ont aussi fait des erreurs, même si ça n'a pas amené de buts. Alors non, c'est trop facile et je ne veux pas entendre ce genre d'accusation. Ils font des erreurs au sein d'un système et tout le monde fait ce genre d'erreurs. Ce n'est pas grave. Et au-delà de ces buts, ils travaillent et aident beaucoup. Ils ont parfois très bien joué et même créé des choses offensivement. Avec un peu plus de chance, ils auraient eu plus de réussite devant. Ce sont des jeunes joueurs, ils ont le droit de faire des erreurs. En aucun cas, on ne peut rejeter la faute sur eux.
Ce sont des jeunes joueurs, ils dürfen Fehler machen, aber auf keinen Fall ihnen die Schuld geben, auf keinen Fall.
Des propos recueillis et traduits par Jérémy Pignard. Au classement, Bienne reste 7e, mais voit Fribourg, le 8e, revenir à 3 points. Toujours sur la glace, le HC Tramelan a été contrarié pour la première fois de sa saison à domicile en Première Ligue. Une première défaite hier soir face à Musingen. Les hockeyeurs se sont inclinés 5-2. Ce revers met fin à une série de 3 victoires consécutives des requins. Le HC Tramelan conserve toutefois sa 2e place au classement. Il compte 1 point de retard sur le leader, Guin, en ayant disputé 2 matchs de moins. Le concept des Grands Chasseral Trail Series a porté ses fruits. Ce nouveau championnat de course à pied a été lancé cet automne. Il regroupe dans un même classement les 3 épreuves du Jura Bernois, à savoir Viré Chasseral Villeray, le trail du Jura Bernois à Tramelan, ainsi que le trail des 7 lieues à La Neuville. Ce dernier s'est disputé hier pour un total de 80,6 km. Yannick Bourquin est président du trail du Jura Bernois et fait partie des 3 initiateurs du projet. Il en tire énormément de positif, on l'écoute.
On est vraiment satisfait de l'engouement que cette série a suscité dans la région. Quand Cyprien Louis, donc le président d'organisation de la course des pavés, s'est approché de nous, donc de la VCV et du Trail du Jura Bernois pour proposer l'idée, on s'est dit voilà, tentons la chose. Et effectivement, le retour a été vraiment plus que positif parce qu'avec 63 inscrits, on ne s'attendait pas à un tel engouement, en toute honnêteté. C'est la preuve qu'en se mettant ensemble, on est plus fort.
Mais les 3 courses, du coup, ont bénéficié de ce nouveau format pour attirer du monde?
Oui, alors on a vu le changement de participation, donc que ce soit au niveau de la VCV ou au niveau du Trail du Jura Bernois, on a eu plus d'inscrits, justement, que les autres années, en tout cas pour le Trail du Jura Bernois sur la distance des 31 km qui faisait partie de la série, on a eu clairement plus d'inscrits que les autres années. Donc c'est vraiment positif.
Yannick Bourquin au téléphone de Nicolas Meusy. Et les Grands Chasseral Trail Series ont été remportés par Demian Schelder de Saint-Imier en un peu moins de 6 heures. Chez les dames, la victoire est allée à la vaudoise Judith Notaire en près de 7h30. Un dernier coup de collier avant la trêve hivernale pour Beza. L'équipe de football albano-biennoise dispute cet après-midi son dernier match de l'année dans le championnat de Première Ligue. Elle reçoit Rotkreuz à 15h à la Tissot Arena. Beza ne compte qu'un point d'avance sur la barre et peut passer devant son adversaire Sougois, 11e en cas de victoire. Mais les Ceylandais restent sur 5 défaites consécutives en championnat et ont vu leur entraîneur Alain Villard remettre sa démission il y a 2 semaines. L'équipe sera dirigée par le capitaine et coach adjoint Labinotte Chéoli. Un mot de météo avant l'arrivée du cocktail populaire. Les brouillards de ce matin se dissipent sur les hauteurs. Au pied du massif, là, c'est un peu plus compliqué. La grisaille persiste. Côté mercure, il grimpera jusqu'à 4 degrés dans le Ceyland, 5 degrés dans les vallons et 7 degrés sur les crêtes qui seront très ensoleillées cet après-midi. C'est la fin de cette édition. Bon dimanche à vous.